Dernière partie des matins en compagnie de notre invité, le philosophe Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, tout à l'heure, vous parliez de l'Europe. Vous parliez d'ailleurs, c'est ce qui ouvre ce livre Mécréance et discrédit, de ce scrutin européen 13 juin 2004 que vous vivez, que vous percevez, que vous analysez comme catastrophique. Dans la chronique d'Olivier Duhamel, et on l'entend souvent dans ses analyses, il parle de ce désir des peuples, de cette démocratie européenne qui se vit à l'échelle la plus vaste aujourd'hui, à 25 peuples. Vous partagez cette forme de croyance, au fond, vous parliez de mécréance, mais là, il y a une forme de croyance dans la possibilité d'une construction démocratique à plusieurs peuples.
Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une croyance dans cette possibilité. Je crois qu'il y a une croyance dans le fait que le marché européen apporte, et c'est tout à fait vrai, pour beaucoup de pays européens, des possibilités d'avenir nouvelles. C'est une certitude, ça. Comment nier que le Portugal, l'Espagne, tous ces pays qui sont entrés dans...
L'Irlande, la Grèce,
qui sont entrés dans l'Europe... il n'y a pas très longtemps, finalement, on en tirait des avantages formidables, et je m'en réjouis énormément, pour ma part. Mais je ne crois pas du tout, pour autant, que l'Europe dont rêve Olivier Duhamel, une Europe politique, soit véritablement aujourd'hui à l'horizon. Je n'y crois pas du tout. Je ne veux pas prendre part à la question sur faut-il voter oui ou non, voilà. J'ai mon avis sur ce problème, mais je pense qu'on ne réfléchit absolument pas aujourd'hui à ce que sont les conditions d'une constitution européenne. Je parle d'une constitution au sens où les philosophes, ou Husserl par exemple, parlent de constitution. Dans la chronique d'Olivier Duhamel, j'entendais, moi, en contrepoint de ce qu'il disait, ce que le New York Times a publié juste au moment de l'élargissement aux 25 pays, précisément au moment du, je crois que c'est sorti le 2 mai.
Cet article, 2 ou le 3, et 3 mai dernier.
2 et 3 mai dernier, le New York Times disait l'Europe, c'est nous qui la ferons, nous les Américains. Parce que les Européens ont une fabuleuse culture, mais c'est une culture du passé. Et la culture d'aujourd'hui, c'est la nôtre, c'est la culture américaine. Et ceux qui le regardent, c'est notre télévision, notre cinéma, etc.
Titre ici, du New York Times, culture commune venue des États-Unis est en train de faire ce que les Européens soient plus proches les uns des autres.
Exactement. C'est-à-dire que le New York Times disait, ce sont nous les Américains qui allons faire l'unité de l'Europe. C'est-à-dire une unité américaine, comme on a parlé d'une Pax Americana. Il faut se rendre compte du fait que les hommes politiques européens ne comprennent rien à ce problème. L'Amérique, dont on parlait tout à fait au début de cette émission, a développé d'abord une politique culturelle pour faire l'unité des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ici même, dans ce studio, Michel Rocard disait, il y a quelques mois, j'étais stupéfait d'un énoncé pareil. Il disait, laissons la culture aux États membres. L'Europe ne doit pas s'occuper d'une politique culturelle européenne. Laissons au moins ça aux États.
Il est pourtant président des affaires culturelles au Parlement européen,
Michel Rocard. C'est n'avoir rien compris à ce que c'est que l'industrie contemporaine, le capitalisme actuel. C'est un capitalisme culturel. Les fonctionnaires européens n'ont pas cessé de raconter, de rabâcher, laisser la concurrence jouer dans le domaine audiovisuel. Il faut faire comme les Américains, développer un modèle ultra-libéral des industries culturelles. Mais c'est absolument pas du tout ce que font les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont investi 1000 milliards de dollars en 20 ans dans ces industries-là.
À titre de comparaison, Bernard Stiegler, vous citez ce chiffre ahurissant. La Commission européenne consacrée en 1998, 0,06% de son budget à la création audiovisuelle pour l'ensemble de l'Union, c'est une journée de politique agricole commune.
Oui, et trois fois moins que ce qu'on donne pour les planteurs de tabac. Je n'ai pas réussi à réactualiser mes chiffres parce que je suis allé sur le site de la Commission européenne, c'est incalculable aujourd'hui. On ne peut pas calculer le budget en question tellement il est opaque, par ailleurs. C'est une catastrophe, le fait que l'Europe ne tire pas parti de son passé culturel, spirituel, historique et colossal. C'est une catastrophe qu'il n'y ait aucune politique de ces technologies nouvelles qui relèvent de ce que j'appelle, en reprenant un très vieux mot, qui remonte à la Grèce ancienne et que commente Michel Foucault dans un texte capital qui s'appelle L'écriture de soi, les hypomnémata.
Alors, petit travail d'explication de texte. À 8h39, ça le mérite. Hypomnémata, qu'est-ce que c'est ?
Les hypomnémata, ça désigne les supports de mémoire artificielle. Et moi, ça fait bien longtemps, 25 ans, que je m'intéresse à la question de la mémoire et de la relation entre disons, l'âme, la conscience, la pensée, le désir et les supports de mémoire artificielle. Je me suis intéressé à travers Platon et l'étude en particulier d'un dialogue fameux qui est Phèdre, où Platon parle des ce qu'il appelle l'hypomnèse, c'est-à-dire l'hypomnésis en grec, c'est-à-dire la technique de mémoire. Il se trouve que la technique de mémoire qu'est l'alphabet est à l'origine aussi bien du droit que de l'économie. Le capitalisme est impossible sans des livres de compte. Le droit du citoyen est tout aussi impossible sans le livre des lois. Le monothéisme est impossible sans le livre des prophètes, sans la Bible. Les techniques de mémoire, et plus généralement les techniques culturelles, sont la condition du développement des civilisations. Et en particulier, l'Occident, qui aujourd'hui est en train de disparaître, à mon avis, dans la mondialisation, l'Occident qui a d'abord été européen, puis qui est devenu américano-européen, est devenu ce qu'il a été, s'est répandu dans le monde par sa maîtrise des techniques culturelles, de ce que Michel Foucault appelle les hypomnémata. Et Michel Foucault montre que, à travers les cas du stoïcien, de l'épicurien, du chrétien primitif, du monachisme en général, etc., que l'esprit est constitué par la pratique des hypomnémata, par des pratiques qui sont des pratiques régulières, que l'on apprend, que l'on cultive, et qui permettent effectivement d'élever l'existence vers ce que j'appelais tout à l'heure les consistances. Et les consistances, qu'est-ce que c'est? Ce sont les idées de l'esprit, c'est-à-dire ce qui permet à l'individuation humaine de prolonger son devenir, de bâtir ce que j'appelle ses motifs, ses motivations, et finalement de sans cesse se transformer et de gravir les échelons de la civilisation. Aujourd'hui, sont apparus de nouveaux hypomnémata. Les techniques analogiques qui apparaissent avec le phonographe ou l'appareil photo et le cinématographe, la radio qui permet la diffusion de ces techniques d'enregistrement, y compris en direct, la télévision, maintenant l'informatique, les technologies numériques, tout ça ce sont de nouvelles formes d'hypomnémata. Ces nouvelles formes d'hypomnémata rendent possible, imaginables, des pratiques culturelles absolument nouvelles, des pratiques spirituelles même, je dirais, absolument nouvelles. Et ces pratiques, elles sont désirées. Nous parlions de Star Academy tout à l'heure. Vous disiez, mais finalement, est-ce que ça représente pas un désir? Oui, ça représente un désir d'exister symboliquement. Malheureusement, ce désir est absolument déceptif, parce qu'on se moque de ces pauvres enfants qui fantasment là-dessus. D'ailleurs, l'article du Monde auquel je référais tout à l'heure soulignait que les enfants qui fantasme le plus, qui s'identifie le plus sur ces petites vedettes d'un jour, qui correspondent à ce que Andy Warhol avait dit, hein. Aujourd'hui,
le quart d'heure de célébrité?
C'est ce qui conduit le désir de l'homme, c'est d'accéder à son quart d'heure de célébrité. Bon, c'est terrifiant que on cible maintenant. Je dis on cible comme on tire comme des lapins du gibier. On cible des enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Pour les tirer vers ça, vers ce type de fantasme qui est un fantasme stérile qui ne mène nulle part. Bon. Quoi qu'il en soit, en effet, que ce soit ça, que ce soit le karaoké, que ce soit toutes sortes de pratiques qui sont parfois beaucoup plus intéressantes, à savoir les usages que font un million de Français de l'informatique pour faire de la musique. Cela désigne le désir qu'ont les individus d'exister symboliquement, et de ne pas être simplement des consommateurs, mais bien d'être des amateurs. L'homme qui veut exister, non pas simplement subsister, c'est quelqu'un qui veut être amateur, c'est-à-dire qui veut aimer les choses. Et aimer les choses, ça veut dire les cultiver, et pas simplement les consommer et les jeter. C'est quelqu'un qui ne veut plus être un simple consommateur. Nous parlions de cette enquête qui a été faite par l'IRI et qui montre qu'on voit apparaître une nouvelle forme d'individus des sociétés industrielles qu'on appelle des alter-consommateurs, comme on parle d'alter-mondialistes, ce sont en fait des gens qui rejettent la consommation. C'est extrêmement grave, le rejet de la consommation. Imaginez que 10% des consommateurs diminuent leur consommation. Vous vous rendez bien compte que sur le taux de croissance, ça veut dire des points de taux de croissance qui s'effondrent, ça veut dire des points de chômage qui montent, ça veut dire une crise économique majeure, et ça veut dire, à court terme, une explosion sociale et même une guerre. Il faut savoir que ce problème se pose pas simplement en France, parce qu'on dit souvent la France est déclinante, etc. Non, ça c'est un discours de droite, ou de gauche d'ailleurs, parce qu'il y a aussi ce discours à gauche, complètement archaïque, et qui ne voit pas que le problème se pose aussi en Chine, par exemple. Je me suis beaucoup intéressé au fait que, aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouveaux riches chinois, 15% des nouveaux riches chinois sont dépressifs, et sont en soins pour dépression nerveuse, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce modèle de la consommation. C'est une chance pour nous, si je puis dire, parce que nous savons très bien que si la Chine se met à consommer comme nous avons fait, nous allons à une catastrophe écologique colossale. Mais ça veut dire aussi que l'Europe doit aujourd'hui inventer un autre modèle. Quand je parle du fait que la démocratie industrielle est décadente, c'est parce qu'elle repose sur un modèle industriel qui est caduque. Le modèle producteur-consommateur est caduque. Aujourd'hui, nous avons affaire essentiellement à des technologies de l'esprit, à des technologies symboliques. Le téléphone portable, le micro-ordinateur, toutes ces choses-là qui se développent en ce moment et qui tirent le capitalisme en avant, ce sont des technologies culturelles et cognitives. Et nous n'avons aucune politique culturelle et cognitive. Effectivement, la Commission européenne consacre un tiers de ce qu'elle donne aux planteurs de tabac au développement de ces questions. C'est absolument consternant. Et Michel Rocard dit il ne faut pas développer une politique culturelle européenne. C'est absolument consternant. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut développer une politique culturelle, mais il faut développer une nouvelle politique culturelle. Aujourd'hui, en Europe, nous avons des gens qui refusent le modèle américain, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas s'identifier à ce consommateur américain obèse et en train de déchoir complètement, et qui conduit, je pèse mes mots, à des choses comme Abu Ghraib, parce que je crois que c'est ça la réalité de cette misère symbolique.
Alors arrêtons-nous un instant sur l'un des aspects de cette vie culturelle, de cette politique culturelle éventuellement à venir, Bernard Stiegler. Les cahiers de médiologie, vous revenez sur les révolutions industrielles de la musique dans cette revue. La musique, c'est très typiquement un lieu, en tout cas peut-être un lieu virtuel avec Internet, où s'invente aussi quelque chose comme une résistance aux formes les plus industrielles de ce capitalisme contemporain. Si l'on songe par exemple à la pratique de la gratuité, au téléchargement, à cette peut-être forme de lutte contre le fait qu'on soit complètement inscrit dans ce rapport consommateur-producteur en musique, en art, donc, comme dans la consommation la plus ordinaire, la plus courante.
Alors, ce cahier de médiologie qui est co-signé par Nicolas Donnin et moi-même, mais qui est fait avec l'IRCAM, c'est l'IRCAM qui a porté ce projet.
Que vous dirigez.
Dont je suis directeur, et beaucoup de gens de l'IRCAM ont contribué à ce numéro, beaucoup d'autres personnes aussi, comme Élie During, Bastien Gallet, qui sont bien connus à France Culture, et aussi des grands compositeurs comme Jonathan Harvey, Hugues Dufour, etc. Ce numéro essaye d'analyser ce qu'on pourrait appeler des paradoxes de la nouvelle époque organologique de la musique. Je prends le mot organologique, qui est un mot un tout petit peu savant, mais organologie, ça désigne la dimension de la musicologie qui étudie les supports, finalement, les instruments de musique, principalement. Nous développons dans ce livre l'idée que étudier la musique, ça nécessite aujourd'hui non simplement de se pencher sur l'organologie des instruments de musique, mais aussi sur les supports de transmission, les hypomnèses dont je parlais tout à l'heure, ça existe en musique, la partition par exemple, mais aussi la bande magnétique, le disque noir, le CD, maintenant le fichier MP3, etc. Et nous posons également qu'il faut étudier l'organologie de l'écoute, c'est-à-dire que les gens qui écoutent, comme les gens qui sont en train d'écouter cette émission en ce moment, ou les gens qui écoutent sur leur iPod, ou sur n'importe quel
lecteur,
sur une chaîne
MP3,
fidélité,
ou
n'importe
wifi,
quoi,
oui.
Ces appareils participent d'une modification organologique de la musique. Or, qu'est-ce que l'on voit se produire au XXe siècle? Ce numéro s'appelle « Les révolutions industrielles de la musique » parce qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles de la musique. Il y en a eu au moins trois. La première, c'est le développement manufacturier des instruments de musique. Au XIXe siècle, subitement, un général a décidé qu'il fallait dans les divisions des orchestres militaires. Et tout à coup, une industrie véritablement de fabrication d'instruments a commencé à apparaître, une industrie manufacturière. Ça a été l'apparition des orphéons, ça a été l'apparition de l'orchestre symphonique finalement au XIXe siècle. Là, c'est une première révolution industrielle de la musique. Il y en a une deuxième, c'est l'apparition du phonographe et de la radio, qui va créer une rupture très importante dans le fait musical total, si je puis dire, à savoir que jusqu'à l'existence du phonographe, on ne pouvait pas écouter de la musique si on n'en faisait pas. pour écouter de la musique, il fallait participer à sa production. Et donc, il existait ce que un grand anthropologue, Gilbert Rouget, a appelé la figure du musicant. Il y avait des musiciens et des musicants. Le musicien était le musicien professionnel en titre qui était là pour faire de la musique, mais les musicants participaient aux fêtes musicales en tant que spectateurs, que ce soit en tant que fidèles, en tant que participants à une fête ou à toutes sortes d'autres titres, à des rites par exemple, etc. Avec l'apparition du phonographe, quelque chose de nouveau s'est produit, d'extraordinairement nouveau, c'est qu'on a pu écouter de la musique sans savoir en faire. Et ça a rendu possible le développement des industries culturelles. Or, qu'est-ce que ça induit, le développement des industries culturelles? Ça induit le fait que, si vous voulez, au 18e, au 19e siècle, les individus écoutent de la musique peut-être 2-3 heures par semaine, au mieux. Je ne parle pas de ces classes particulières que sont les cours princières, celles où Mozart a écrit toutes ses œuvres, ou bien la figure bourgeoise de la fin du 19e siècle, qui reste de toute façon minoritaire sur le plan démographique. Je parle de la manière dont les gens, en règle générale, écoutent de la musique. Les gens, en règle générale, à cette époque-là, n'écoutent de la musique que dans les moments de culte, quand ils vont à l'église, dans des moments de fête, où là, ils participent, ils dansent, ils chantent, ils jouent eux-mêmes, ils peuvent être violonneux, etc. Mais la musique, ils n'y accèdent que quelques heures par semaine, voire par mois, voire par an. Aujourd'hui, vous entendez de la musique absolument partout en permanence. Absolument partout en permanence. Dans votre taxi, chez le coiffeur, à l'aéroport, chez vous, parce que vous allumez la radio en vous réveillant ou pas.
Il faut le regretter ?
Non, je dis pas qu'il faut le regretter, je dis qu'il faut l'analyser. Moi, je cherche à analyser des phénomènes. Et simplement, ce que je crois, c'est que il y a des choses regrettables dans ce fait, parce que dans cette musique-là, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, je dirais pas que ce n'est pas de la musique. Donc je dirais que c'est de la musique qui tire vers le bas au lieu de tirer vers le haut, qui renforce les comportements de consommation les plus répétitifs, les plus obsessionnels, les plus enfermants. Une très grande partie de cette musique est fabriquée exclusivement pour capter la libido des consommateurs et pour leur vendre des appareils, des produits, etc.
Des produits dérivés notamment.
Des produits dérivés ou tout simplement de la publicité. C'est-à-dire qu'il s'agit avec cette musique de capter les temps de conscience. Pourquoi ? Parce que la musique est un objet temporel. Et la conscience est elle-même temporelle. Et on s'est aperçu dans le marketing que, comme le cinéma, la musique permet de synchroniser les temps de conscience et à partir de là, de leur faire adopter à ces temps de conscience des comportements collectifs massifs, voire hyper massifiés, et de précisément produire cette figure de consommateur dont je parlais tout à l'heure, qui n'est plus un amateur de musique, qui est un pur consommateur de musique, qui ne sait plus rien de ce qu'il y a dans cette musique, qui ne fait finalement que subir cette musique. D'un autre côté, le phonographe a été l'apparition de nouvelles manières de faire de la musique. Je me suis beaucoup intéressé à ça depuis déjà de nombreuses années. La première fois où j'ai travaillé avec l'IRCAM, j'ai travaillé sur la figure de Charlie Parker, qui est un jazzman. Et j'ai essayé de montrer, en m'appuyant sur son biographe, que Charlie Parker est devenu le grand musicien qu'il était par l'usage qu'il faisait du phonographe. Il utilisait le phonographe comme une machine didactique. Il répétait les morceaux qu'il écoutait jusqu'à plus soif pour les analyser. Il ralentissait le plateau pour pouvoir décomposer le jeu de son maître qui était Lester Young. Il faisait ça en 1937, et la même année, exactement au même moment, Béla Bartók faisait la même chose en Europe centrale pour analyser la musique populaire d'Europe centrale.
Et aujourd'hui, avec Internet, on pourrait avoir de nouveaux birds apparaître.
Aujourd'hui, on voit apparaître effectivement des technologies nouvelles, et en particulier les technologies numériques, qui permettent des choses absolument fabuleuse. D'abord en termes d'écriture musicale, c'est ce que l'IRCAM développe depuis maintenant presque 30 ans, avec un patrimoine musical qui est sorti de tout ça, qui est considérable, puisqu'il y a eu 350 créations d'œuvres à l'IRCAM, avec des logiciels de l'IRCAM qui se sont répandus sur la planète entière aujourd'hui. Nous vendons nos logiciels dans le monde entier. Mais également apparaissent des possibilités nouvelles d'écoute avec le numérique, qui permettent par exemple à des individus qui écoutent une musique dite savante, la musique qu'aimait Béla Bartók, de l'écouter en regardant la partition. Béla Bartók disait en 1937, la radio est une bonne chose, à condition de lire la partition en même temps qu'on écoute le concert diffusé par la radio. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que pour vraiment écouter une musique, il faut en comprendre les structures. Et que pour comprendre les structures, il faut savoir lire la musique. Il se trouve qu'au XIXe siècle, la musique savante était faite pour des publics qui la lisaient et qui la jouaient. Les gens qui venaient au concert au XIXe siècle, généralement, connaissaient la partition avant de venir, même si c'était un concert symphonique, parce qu'ils avaient des réductions pour piano et qu'ils jouaient ces réductions pour piano chez eux. Et ensuite, ils allaient écouter l'interprétation symphonique et ils étaient extrêmement amateurs, parce qu'ils connaissaient les difficultés de la partition, ils connaissaient les subtilités de l'écriture, etc. Aujourd'hui, le problème est que les pratiques musicales se sont largement disparu, mais les technologies numériques permettent d'envisager la reconstitution de telles pratiques musicales. Pourquoi? Parce que il est possible maintenant de diffuser de la musique avec la partition et de rendre cette partition compréhensible, y compris aux gens qui ne savent pas la lire, avec les technologies de ce que nous appelons à l'IRCAM l'imagerie musicale.
Au fond, Bernard Stiegler, heureusement que vous avez la musique pour ne pas céder au pessimisme.
Non, mais moi, je ne suis pas pessimiste ni optimiste. Je crois, si vous voulez, que aujourd'hui, il y a un combat à mener en Europe. Et qu'il y a un combat pour redévelopper des pratiques culturelles et non pas des usages culturelles, des pratiques culturelles, et que la puissance publique, et j'appelle puissance publique non seulement l'État, mais les grandes compagnies, comme la Fnac, Sony, etc., il faut développer une vision de la pratique culturelle de demain et porter cette politique au niveau européen.
Merci infiniment Bernard Stiegler d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle Mécréance et Discrédit, votre livre paru ces jours-ci chez Galilée, et puis Les cahiers de médiologie, les révolutions industrielles de la musique que vous co-dirigez.